première édition d'Afrique Matin. Bienvenue, il est 5h30 à Paris, 4h30 à Kinshasa, 3h30 en temps universel.
Nemo en piste.
Constant Mutamba peut à tout moment se retrouver devant la justice dans les tout prochains jours. Le résultat d'un vote des députés congolais hier soir en faveur des poursuites contre le garde des Sceaux, accusé d'avoir transféré quelque 19 millions de dollars vers une société privée dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. Constant Mutamba, qui, comme le prévoit la loi, est censé démissionner. Dans ce journal, reportage à bord dans le centre du Soudan du Sud, où des milliers d'habitants riverains d'une île blanche ont les pieds dans l'eau depuis le début de la saison des pluies. Le manque d'infrastructures est cruel et empêche l'évacuation des eaux. À Madagascar, c'est la saison sèche qui a débuté, synonyme de coupure de courant régulière dans la capitale et donc de colère des habitants d'Antananarive, à qui les autorités promettent des solutions rapides. L'actualité, c'est également à l'international. 4e jour consécutif de confrontation entre Israël et Iran. Cette nuit encore, de nouvelles salves de missiles tirées de part et d'autre. Journée événement ce lundi sur RFI. Israël-Iran, un front qui ne doit pas faire oublier la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Et puis du sport, entrée en lice plus que réussie pour le Paris Saint-Germain dans la Coupe du Monde des clubs nouvelle version. Les récents champions d'Europe balaient l'Atlético de Madrid 4-0. En République démocratique du Congo, donc, la requête de Firmin Mvonde, procureur général près la Cour de cassation, a donc été accueillie favorablement par les députés qui l'ont autorisé hier soir à déférer Constant Mutamba devant cette même instance. Le ministre de la Justice s'est inculpé de détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. RFI Kinshasa, Pascal Moulégois.
C'est à huis clos que les députés ont tranché. Sur les 363 présents, 329 ont voté en faveur de poursuites contre les ministres de la Justice Constant Mutamba. Ces faveurs ouvrent la voie à l'ouverture d'un procès dans les tout prochains jours. Quant au ministre inculpé, il devrait démissionner comme le prévoit la loi en ces débuts de semaine. Constant Mutamba, 37 ans d'âge, est accusé d'avoir transféré 19 millions de dollars vers une société privée dans le cadre d'un contrat de gré à gré portant sur la construction d'un établissement pénitentiaire à Kisangani. Un contrat de 29 millions dont 65% venait d'être versé alors que la loi sur les marchés publics limite les acomptes à 30%. Les contrats n'avaient pas été autorisés par la première ministre. Les députés et les procureurs estiment que cette somme aurait pu être détournée si la cellule nationale du renseignement financier n'avait pas gelé les comptes bénéficiaires à temps et tiré la sonnette d'alarme. La société en question est décrite comme un fantôme sans bureau connu ni personnel et encore moins d'expertise. Les rapports votés par les députés affirment aussi que les sites devant recevoir l'ouvrage n'existaient pas. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
De leur côté, les proches de Constant Mutamba estiment qu'on ne peut pas parler de détournement, les fonds n'ayant pas été perçus par l'entreprise. Eux estiment que le ministre est victime, je cite, de ces réformes judiciaires et des réseaux mafieux mis à mal. Sachez également que l'Assemblée nationale a refusé d'examiner le deuxième réquisitoire du procureur contre le même ministre de la Justice et portant sur des accusations d'outrage au corps constitué et incitation au manquement envers une autorité publique. La RDC encore et ses nouveaux bilans du naufrage de trois pirogues sur le lac Tumba. D'abord, dans la province de l'Équateur, c'était la semaine dernière. Le ministère de l'Intérieur indique dans un communiqué que 48 corps ont été repêchés et que 107 passagers restent portés disparus. Dans ce même document, les autorités mettent également à jour le bilan des inondations qui ont frappé Kinshasa dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Au moins 29 personnes sont décédées dans 8 communes de la capitale. Inondations également au Soudan du Sud, pays frappé depuis 2019 par un cycle dévastateur, notamment dans le centre et dans le nord du pays, près d'1 500 000 personnes affectées, particulièrement dans l'état du Jonglei, où quelques 400 000 habitants sont touchés par la montée des eaux. C'est le cas à Bor, capitale régionale située au bord du Nil Blanc et où les digues ont peu à peu été renforcées depuis 5 ans pour contenir le fleuve. Problème, sans infrastructures adéquates, les eaux de pluie ne s'évacuent pas et les habitants de certains quartiers se retrouvent les pieds dans l'eau depuis le début de la saison des pluies en mai, faisant des milliers de déplacés. Reportage sur place de notre correspondante Florence Mietto.
Situé en contrebas de deux grosses artères de bord, le quartier de Niguel patauge dans près d'un mètre d'eau stagnante. À l'aide de casseroles, trois frères écopent l'eau qui a envahi leur maison. Leur sœur, Atobol Kwol, 21 ans, témoigne.
Il y a eu une énorme pluie il y a 3 semaines qui a provoqué ces inondations. Ça a détruit tout ce que nous avions à l'intérieur de la maison. Nos matelas, les affaires que nous avions dans des valises et la nourriture que nous avions en stock.
D'autres femmes s'approchent. Elles ont dû quitter leur domicile et campent dans la rue. Parmi elles, Awa Kanyang, une femme très frêle de 60 ans, vit sous une moustiquaire tendue entre deux bâtons.
Le gouvernement dit qu'il va nous venir en aide. Mais nous sommes dans l'eau depuis un mois maintenant et ils ne sont pas venus. Nous dormons dehors et nous nous faisons piquer par les moustiques. Nous n'avons pas de bâches en plastique pour construire des abris. Que devons-nous faire? Quitter la ville? Si la pluie se met à battre, je risque de mourir car je n'ai pas assez de force, pas de nourriture et je n'ai nulle part où aller.
Les autorités locales disent manquer de moyens pour faire face. Elles se heurtent aussi à un problème épineux, l'évacuation de certaines zones résidentielles nécessaires afin d'ouvrir des canaux de drainage des eaux de pluie. Florence Mietto, Bor, RFI.
À Madagascar, la colère des habitants d'Antananarive. Ils sont certes familiers des coupures de courant régulières pendant la saison sèche. Mais cette année, disent-ils, elles ont commencé bien plus tôt, jusqu'à 12 heures par jour sans électricité. De quoi leur faire perdre patience et même descendre dans la rue. La semaine dernière, des manifestations spontanées ont éclaté dans la capitale de la Grande Île. Face à ces délestages incessants, les autorités disent vouloir accélérer l'installation de parcs solaires et d'une nouvelle centrale thermique même. Écoutez la réponse d'Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures.
Cette année 2025, il y a plusieurs phénomènes qui explique un peu la situation. Premièrement, les pluies se sont arrêtées beaucoup plus tôt que prévu. En mois de mai, par exemple, on a déjà constaté que les rivières, les fleuves qui alimentent plusieurs centrales hydroélectriques ont baissé beaucoup plus vite que les autres saisons. Les centrales hydroélectriques donc sont à peine jusqu'à 55% max de leur potentiel réel. Il y a aussi la situation du réseau lui-même. Le réseau interconnecté d'Antananarive commence à dater et c'est un réseau déjà très saturé en matière de conduite d'électricité sur les différentes lignes. Alors parmi les actions nécessaires pour résoudre cela, donc d'abord il y a une centrale de 105 MW qu'on va installer du côté d'Amboul-Manamboul. On a dans les projets d'accélérer aussi l'installation de parcs solaires. Donc c'est le déploiement de cela qui va pouvoir augmenter la production d'électricité dans les semaines et dans les mois à venir.
Olivier Jean-Baptiste, ministre malgache de l'énergie et des hydrocarbures avec Guillaume Fabry. Vous retrouvez d'ailleurs en ligne sur RFI.fr un article plus complet signé Guillaume Fabry sur ces coupures de courant à Antananarive. Les États-Unis veulent encore durcir leur travel ban. Entré en vigueur lundi dernier, il empêche déjà les ressortissants de 12 pays d'entrer sur le territoire américain. 7 d'entre eux qui figurent sur cette liste sont africains, dont le Tchad et le Congo-Brazzaville. Eh bien, selon un document consulté par le Washington Post et Reuters, 36 nouveaux pays pourraient venir garnir cette liste, dont 25 issus du continent. On y retrouverait notamment la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin ou encore le Burkina Faso. Plus de détails sur cette affaire dans le prochain journal depuis Atlanta avec notre correspondant Edouard Maille. Rendez-vous à 4h temps universel. Autre rendez-vous à ne pas manquer ce matin, double édition spéciale sur les antennes de Radio France Internationale. La première à partir de 6h10, temps universel consacré à l'escalade des tensions ces derniers jours entre Israël et Iran. La seconde, une heure plus tard, autour de la situation à Gaza. André Mellard avec à ses côtés notre correspondant à Jérusalem, Sami Bourg-Khalifa et leurs invités. Mais dans ce journal, d'abord, étape dans l'un des pays les plus actifs du soutien au peuple palestinien, l'Afrique du Sud, qui avait notamment saisi la CIJ, la Cour internationale de justice contre Israël, pour génocide dans l'enclave palestinienne. Une délégation sud-africaine composée d'une cinquantaine de personnes, dont un petit-fils de Nelson Mandela, a également rejoint ces derniers jours l'une des caravanes de la solidarité qui a tenté de se rendre à Gaza en passant par l'Égypte. Sans succès, un soutien sud-africain marqué, aboutissement d'une longue histoire, nous rappelle Roshan Dadou, coordinatrice du collectif BDS, boycott des investissements, sanctions contre Israël.
Durant notre lutte contre l'apartheid, nous étions proches de l'Organisation de libération de la Palestine et des liens étroits se sont développés entre nous. Rappelez-vous, à la fin de l'apartheid, Nelson Mandela a dit « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». C'est un sentiment qui est resté ancré dans la société sud-africaine et c'est ce qui nous a poussé à saisir la Cour internationale de justice contre Israël. Ça a été une action historique, surtout venant d'un pays pays du Sud, qui plus est l'Afrique du Sud. Donc il y a toujours eu ce sentiment que nous, Sud-Africains et le peuple palestinien, partageons un même combat. Et puis nous avons une expérience commune, l'oppression. Ce ne sont pas exactement les mêmes régimes, mais ils sont modelés sur les mêmes principes de domination blanche, de nationalisme ethnique, de division. Nous avons souffert, nous les Sud-Africains, comme les Palestiniens souffrent aujourd'hui d'un système d'apartheid.
Roshane Dadou, coordinatrice en Afrique du Sud du collectif BDS. Elle était jointe par Alexandra Branjon. Et sachez que c'est une journée événement ce lundi sur les éditions spéciales de la matinée, je vous en parlais, mais pas que. Israël-Iran, un nouveau front qui ne doit pas occulter la situation humanitaire à Gaza. Rendez-vous tout au long de la journée sur nos antennes. Et vous continuez de suivre les derniers développements de la situation sur notre live. Vous connaissez l'adresse www.rfi.fr. Du sport et du football dans ce journal. La Coupe du Monde des clubs, nouvelle version, a démarré ce week-end aux États-Unis. L'une des équipes les plus attendues, c'est forcément la championne d'Europe. Le Paris Saint-Germain qui a fait très fort pour son entrée en lice dans la compétition. Facile victoire 4-0 face à l'Atlético de Madrid à Pasadena dans la banlieue de Los Angeles. Le PSG s'est donc idéalement lancé vers son nouvel objectif, Cédric de Oliveira.
S'il y avait des doutes sur la détermination et la forme du PSG, ils ont été levés dans la fournaise du Rose Bowl de Pasadena. Les Parisiens n'ont laissé aucune chance à l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, complètement dépassé. Paris n'a eu besoin que de 20 minutes pour marquer grâce à Fabien Ruiz après un mouvement collectif splendide, avant d'enfoncer le clou juste avant la pause par le portugais Vitinha, une nouvelle fois éblouissant au sein de l'entrejeu parisien. À 2-0, tout est devenu encore plus facile pour les joueurs de Luis Enrique qui s'est permis de faire opposer ses cadres, Nuno Mendes, Kvaratskhelia et Désiré Doué. D'autant qu'après l'exclusion de Clément Lenglet pour 2 cartons jaunes, les Colchoneros ont dû terminer le match à 10. En maîtrise, le PSG a ainsi ajouté 2 buts grâce au jeune Seni Mayulu, déjà buteur en finale de la Ligue des Champions, et un pénalty du Sud-Coréen Kang In-Lee. 4-0, nouvelle démonstration des Parisiens qui en 2 semaines n'ont visiblement rien perdu de leur talent et qui confirment qu'ils feront partie des favoris de ce mondial des clubs.
Cédric De Oliveira et prochain match pour le Paris Saint-Germain dans la nuit de jeudi à vendredi contre Botafogo. L'autre rencontre du groupe B entre le club brésilien et Seattle aura lieu à 2h. Temps universel. D'autres résultats, victoire écrasante du Bayern de Munich sur Auckland City, 10-0. Et puis Chelsea joue ce soir à 19h, temps universel face au Los Angeles FC, le journal des sports. C'est dans 1 heure, vous retrouvez Antoine Grenier ce matin. Allez, la fin de ce premier quart d'heure en musique et au Malawi avec le duo Madalitso Band, composé de 2 des prophètes de la musique dans leur pays, Yosefe Kalekeni et Yobu Maligwa. Magitala, ça vient de sortir et c'est le titre de leur 3e album, 8 titres qu'a écouté pour nous Carmen Lussman.
Force spirituelle et énergie roots. Quand Madalitso Band déploie ses cordes vocales et instrumentales, le duo Malawite y met tout son amour et son parcours. Formé dans les rues et même dans les arbres où Yosefe jouait perché sur une branche, ces autodidactes ont fait leur début sur les marchés et lors de mariages dans des bidonvilles. Armés d'une guitare à 4 cordes, d'un tambour en peau de vache et d'un babatone, une contrebasse à 1 corde, tous de fabrication artisanale, ces troubadours se sont frayés un chemin grâce à leur talent et leur détermination. Ils chantent l'amour et la fierté pour leur pays, mais aussi les difficultés de la vie, qu'on soit riche ou pauvre. Avec des mots simples, teintés d'humour, ils mêlent sagesse populaire et groove contagieux, allant jusqu'à inclure les voix de leurs propres enfants dans la chanson-titre de l'album « Magitala ». Une chanson peut changer une vie, dit Yobu. C'est le cas de Madalitso Band, qui arpente désormais les plus grandes scènes du monde, entre danse et trance.
Un sujet signé Carmen Lunsman du service culture de Radio France Internationale. L'album Magitala de Madalitso Band est sorti vendredi sous le label suisse Bongo Joe. Le duo Malawite qui entame une vaste tournée à travers l'Europe avec une 60aine de dates jusqu'à fin août. 5h45 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre dans cette deuxième partie, le plan national de développement adopté en Conseil des ministres au Tchad. Pour Afrique Éco, Claire Fage nous présente Tchad Connexion 2030. La satisfaction des producteurs européens de contreplaquer après l'entrée en vigueur des droits de douane sur les produits chinois, c'est dans la chronique des matières premières. Et puis, le manque de personnel criant dans les centres hospitaliers de Mayotte, c'est à la une du journal des territoires français de l'océan Indien. Tout de suite, le reportage Afrique. En Tunisie, où ce samedi, ils étaient encore très nombreux à s'être réunis en soutien au peuple palestinien et à l'initiative de la marche pour Gaza partie de la capitale le 9 juin dernier. Une caravane toujours bloquée en Libye par les autorités de l'est du pays et qui a montré la force d'une mobilisation maghrébine en faveur des Palestiniens. Le reportage dans la foule de notre correspondante Lilia Blaise.
Samedi 14 juin, alors que la caravane Soumoud était encore bloquée à Sirte dans l'est libyen, des centaines de Tunisiens se sont réunis au centre-ville de Tunis pour soutenir l'initiative. Heikel Marfouzi, un journaliste indépendant, a participé à cette caravane jusqu'à Ras El Jdir, le poste frontalier tuniso-libyen.
C'était vraiment incroyable le soutien que nous avons eu, la solidarité tout au long des villes tunisiennes que nous avons parcourues. On sent que le mouvement de la marche pour Gaza a beaucoup fédéré.
Pour Raouf Farah, chercheur algérien basé en Tunisie, c'est tout le Maghreb qui se sent concerné. Près de 700 Algériens se sont joints à la caravane.
Je pense qu'en tant que Maghrébin, nous sentons cette responsabilité à la fois morale et politique de dire assez au génocide, assez aux violences génocidaires contre les Palestiniens, au silence et à la complicité des autorités, des gouvernements, des institutions internationales face à un crime.
Sur la page Facebook qui cumule plus de 200 000 abonnés, les participants au convoi n'ont pu poster que de rares informations, faute de réseau notamment. Ils affirment être en négociation avec les autorités libyennes, selon Heikel Marfouzi.
On en a eu vent de plusieurs personnes du convoi qui ont été arrêtées. On est encore en train de mettre à jour les informations que nous avons eues au fur et à mesure. C'est très difficile de joindre la caravane actuellement et on ne sait pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire.
Dimanche 15 juin, les porte-paroles du convoi insistaient encore dans une vidéo pour rester en Libye et ne pas faire marche arrière, même si la caravane a dû rebrousser chemin vers Misrata, faute de résolution avec les autorités à Sirte. Mohamed Emine Benour, médecin, s'exprime dans un haut-parleur.
Il faut rester patient et soudé. Nous tous, Tunisiens, Algériens, Mauritaniens, nous allons y arriver ensemble.
Malgré le blocage, la détermination reste entière. L'espoir d'arriver jusqu'à Rafah s'amenuise. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce lundi 16 juin 2025. Et justement, quatrième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Ce matin, Israël affirme avoir détecté une nouvelle salve de missiles iraniens. De fortes détonations ont été entendues à Jérusalem. Un missile s'est aussi abattu sur Haïfa dans le nord. De son côté, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur l'Iran. Elle divisait ce lundi des sites de missiles sol-sol. Hier, elle avait bombardé la capitale, Téhéran, la ville de Machad, ainsi que des installations militaires dans l'ouest du pays. Le bilan humain est d'au moins 224 morts et de plus d'un millier de blessés en Iran depuis le déclenchement de l'attaque israélienne vendredi. C'est ce que dit le ministère iranien de la Santé qui parle de 90% de civils. Le chef du renseignement des gardiens de la révolution est décédé. Les services de secours israéliens évoquent 15 décès et 380 blessés. Et c'est côté déclaration, la présidente de la Commission européenne a parlé au Premier ministre israélien. Elle dit avoir fait passer le message qu'une solution négociée avec l'Iran est meilleure à long terme. Benjamin Netanyahu, lui, donne une interview à la chaîne américaine de télé Fox News. Il y laisse entendre que les frappes sur l'Iran pourraient conduire à un changement à la tête du pays. RFI, je vous le rappelle, est en édition spéciale des 6 heures temps universel. Nous y évoquerons aussi la situation humanitaire dramatique à Gaza. 21 mois de frappes et d'opérations au sol israélienne. 55 000 Gazaouis tués et une aide qui arrive toujours au compte-gouttes. Il a été baptisé Tchad Connexion 2030 et prévoit une mobilisation de 30 milliards de dollars publics et privés pour désenclaver le pays et diversifier l'économie du pays, toujours très agricole et pétrolière. Son objectif, atteindre 8% de croissance d'ici 5 ans, à l'heure où l'extrême pauvreté qui atteint plus de 40% de la population s'est une nouvelle fois aggravée cette année. Claire Fage, le dossier Afrique Éco.
Le plan, baptisé Tchad Connexion 2030, souhaite mettre en valeur la position centrale du Tchad en Afrique, en faire un nœud logistique, explique le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin.
Tous les grands corridors africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, transitent par le Tchad. Le thème connexion ici marque la volonté de nous positionner comme un hub logistique, mettre en place l'ensemble des moyens nécessaires à ce que la navigabilité sur le lac Tchad soit effective avec des ferries, des ports, des débarcadères.
Électrifier à 90% les zones urbaines et à 60% l'ensemble du pays, fournir de l'eau à 11 millions de personnes supplémentaires, le plan prévoit aussi de doubler la scolarisation en primaire grâce à l'ouverture de l'enseignement au secteur privé qui est également attendu, souligne le ministre, dans le secteur de l'or et de la transformation industrielle des produits de base.
Que le secteur privé, avec des licences, avec des conditions financières, des facilités fiscales et douanières sans pareil, puissent investir et connecter à l'énergie de notre population et passer à l'industrialisation et à une transformation plus poussée de nos matières qui sont les mines, les produits agricoles, les produits d'élevage, l'arachide, le sésame, la gomme arabique et des produits de niche comme la spiruline.
Ce plan de 30 milliards de dollars élaboré par les autorités de N'Djamena en collaboration avec la Banque Rothschild et le cabinet Roland Berger est très ambitieux, mais le Tchad a un atout, reconnaît Charles Boissel, analyste Afrique centrale chez International Crisis Group, son très faible endettement.
C'est ambitieux et on voit malheureusement souvent de ce genre de plan publié par les ministères sans que ce soit vraiment suivi des faits. Après, un des rares points positifs pour le Tchad, c'est qu'il a des capacités de financement bien supérieures aux autres pays de la CEMAC parce que sa dette équivaut à seulement 30% de son PIB, ce qui est trois fois plus faible que le Congo, par exemple.
Le Tchad est sorti de la période compliquée du remboursement de prêts contre des barils à Glencore, ce qui lui permet de profiter davantage de ses revenus pétroliers. Le FMI soutient son plan avec sa facilité élargie de crédit, mais le défi du développement est gigantesque avec un demi-million de Tchadiens supplémentaires plongés dans l'extrême pauvreté depuis les inondations.
Claire Fage du service économie de Radio France Internationale. L'Union européenne décide d'imposer des droits provisoires sur le contreplaqué chinois. Une décision entrée en vigueur en fin de semaine dernière. On en parle dans la chronique des matières premières. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Bruxelles qui, avec cette mesure, répond à une plainte déposée par un regroupement de producteurs du vieux continent.
Oui, derrière ce groupement baptisé Greenwood, on trouve des industriels installés en Pologne, en Finlande, en France et dans les pays baltes qui dénoncent une concurrence déloyale de la part de la Chine. Leur plainte a été jugée suffisamment étayée aux yeux de la Commission européenne et après plus de 7 mois d'enquête, elle vient de décider de taxer à 62% toutes les entreprises chinoises qui exportent du contreplaqué en Europe, à l'exception de l'une d'elles taxée seulement à 25%. Ces droits s'appliquent essentiellement sur les contreplaqués de peupliers, de hêtres et de bouleaux.
Et si ces taxes ont été dessinées, c'est bien que la Commission européenne a jugé qu'il y avait concurrence déloyale.
Oui, elle dit avoir constaté qu'il y avait un préjudice important, c'est le mot, tant sur les prix que sur les volumes, entre l'été 2023 et l'été 2024, la période ciblée pour l'enquête. La Chine a de fait comblé en partie le vide laissé par les exportations russes après leur interdiction en Europe. En raison des prix cassés pratiqués par les entreprises chinoises, ces sanctions contre la Russie n'ont en revanche pas profité aux producteurs européens. La Commission européenne estime dans ses conclusions qu'à ce niveau de prix, la rentabilité de l'industrie du contreplaqué de l'Union n'est plus assurée.
Et Marie-Pierre, les fabricants européens de contreplaqué doivent donc être satisfaits des mesures de protection mises en place par l'UE ?
Oui, mais il souhaite que ces taxes provisoires soient prolongées et à un niveau plus élevé, seule condition, disent-ils, pour égaliser véritablement les règles du jeu. Leur argument, c'est qu'ils sont soumis en Europe à des normes environnementales et sociales beaucoup plus strictes que celles en vigueur en Chine et qu'ils ont des coûts de production beaucoup plus élevés. Dans tous les cas, les mesures européennes seront probablement vite confrontées à leur contournement. Il ne serait pas étonnant de voir la Chine vendre demain d'importants volumes de contreplaqué de résineux en Europe, un produit qui n'a pas le même code douanier que le contreplaqué de feuillus et qui peut échapper aux nouvelles taxes européennes.
La chronique des matières premières. Merci Marie-Pierre Olfan. Les 5h55 ici à Paris, avant le retour de l'actualité internationale et le journal de Jeanne Bartoli, place au journal des territoires français de l'océan Indien. À la une ce lundi, Mayotte, où des agents du centre hospitalier alertent sur le manque de sages-femmes, notamment. Une édition présentée par Serge Massot. Bonjour Serge.
Bonjour. À Mayotte, des agents hospitaliers en grève se sont retrouvés devant l'entrée de l'hôpital périphérique de Mramamoudou. Ils expliquent que la maternité ne fonctionne pas normalement, faute de personnel, et que pour accoucher, les femmes enceintes sont orientées plus loin, vers le centre hospitalier de Mamoudzou. Les explications de Majid Mouayad Bena, de Santé Sud Sociaux. Il est au micro de Jamila Swadiki de Mayotte la Première.
On nous dit que il manque des sages-femmes. C'est l'ARS, ça fait déjà plus de 3 ans, qui a mis en place un plan d'attractivité pour justement recruter les sages-femmes. Et au jour d'aujourd'hui, il nous a dit qu'il a recruté 0 sage-femme. Ça veut dire que ce plan-là ne marche pas, il doit changer de plan. Et au niveau sécuritaire, c'est justement l'ARS et le CHM qui doivent réfléchir pour pouvoir réhabiliter ou reconstruire ces maternités-là. On a dit que nos conditions de vie ne sont pas négociables et notre dignité aussi n'est pas négociable parce que c'est nous qui prenons toutes les critiques, nous les salariés du CHM. Donc tant que justement CHM ou l'ARS ne trouvent pas des solutions pour ouvrir ces maternités, nous on ne lâche pas et on ne lâche rien du tout.
Sur l'île de la Réunion, une centaine de bénévoles de l'établissement français du sang étaient mobilisés durant tout ce week-end pour inciter les Réunionnais à donner leur sang. Les stocks sont au plus bas, en cause l'épidémie de chikungunya qui a frappé l'île ces dernières semaines. Guillaume Massiot, responsable du laboratoire de l'EFS.
Le virus du chikungunya, ça reste un virus qui circule dans le sang pendant un temps relativement court. Il y a quelques données scientifiques qui montrent que ça peut être transmis en fait par la transfusion sanguine et c'est pour ça qu'on peut prendre aucun risque à l'EFS. Depuis le tout début, mais des premiers cas, début décembre, on a fait une analyse, une PCR chikungunya systématique sur tous les dons. Et malheureusement, avec l'épidémie qui a augmenté, on a trouvé des dons qui étaient positifs au chikungunya. On a aussi eu des donneurs qui n'ont pas pu donner leur sang même parce qu'ils avaient des symptômes. Tout ça a fait qu'au plus fort de l'épidémie, il nous manquait à peu près entre 20 et 25% de poche de sang par rapport à d'habitude. Donc c'est vrai que pendant cette période difficile, c'est la solidarité avec les autres établissements français du sang de la métropole qui a joué, qui joue encore actuellement. Là, on a quand même une épidémie qui est en fort recul. On a de moins en moins de positifs au laboratoire. Donc voilà, on commence à sortir la tête de l'eau.
Guillaume Massiot, responsable du laboratoire de l'établissement français du sang de La Réunion. Il était au micro d'Harry Amourani de Réunion la Première. Et puis l'équipe de handball de la Cressonnière a réalisé un exploit ce week-end. Au Palais des Sports de Créteil, en région parisienne, les joueuses réunionnaises sont devenues championnes de France de National 1 en battant Metz 31 à 28. Il aura fallu attendre la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Écoutez la joie de l'entraîneur de la Cressonnière, Didier Rinquin.
Ouais, même dans mes rêves les plus fous, j'avais même pas pensé, ouais. Avant ce match, on a dit aux filles, ouais, la saison est réussie. Déjà, la Réunion est vaincue, invaincue pour les Dom. On s'est dit, ouais, on n'a rien à perdre aujourd'hui. C'est une équipe meilleure que nous. Mais nous, on est une vraie famille. On a une vraie cohésion. J'ai dit, ouais, on fait notre jeu habituel. Et on verra ce qui se passe. On va pas perdant, on va pour gagner. On sait qu'on est les favorites. Mais on a fait notre jeu normal. Et les filles d'arrêt marquent des buts. Voilà, tout simplement merveilleux, merveilleux. Ça va rester à vie. Toutes les filles vont penser ça. Quand on se regardera dans la rue dans 10 ans, 15 ans, on saura ce qu'on a vécu. Exceptionnel.
Des propos recueillis par Patrick Ramoudou de Réunion La Première. Bonne journée sur RFI.
Bonne journée à vous et merci Serge Massot. C'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Thierry Le Saint, à la réalisation, à Vincent Dublange, à la rédaction en chef. Dans un peu moins d'une minute maintenant sur RFI, le retour de l'actualité internationale. Vous retrouvez le journal de Jeanne Bartoli.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
des uniformes scolaires au look Lolita, qu'est-ce que la mode à Tokyo dit de la société ?
Demain,
face au cyberharcèlement en Afrique, quelle responsabilité des plateformes ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.